Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous allons encore prier pour ce moment. Seigneur, je veux tout simplement donner entre tes mains pour te laisser conduire ce moment. Tu connais nos besoins et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous savons que tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles pour nous faire du bien parce que tu es un Dieu d'amour. Prends le contrôle de ce moment. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh. Je me suis dit, le 31 décembre, quel honneur, quelle difficulté venir prêcher le 31 décembre. Pour moi, c'est un grand honneur. D'accord? Parce que le 31 décembre, c'est le dernier jour de l'année. Et la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et c'est pourquoi je prie que Dieu vous parle par rapport à vos besoins, hein, que Dieu vous dise une parole importante. Parce que je n'ai vraiment aucune valeur pour pouvoir vous parler ce matin, si ce n'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et le thème de mon message, parce que c'est Adonai est un Dieu du nouveau départ. Un Dieu de la deuxième chance. Un Dieu qui est rempli de miséricorde et qui sait nous aider. Et au travers les différents textes que nous allons lire, on pourra voir un tout petit peu ce de quoi je veux parler ce matin. Mais entre autres, je voulais parler surtout de l'importance de l'attitude pour entrer dans cette année 2018. C'est très très important. L'attitude. Et le premier texte que nous allons prendre, nous allons le prendre dans le livre des Juges, au chapitre 6. Que Dieu bénisse sa parole. On a trois textes à lire, et si vous voulez, vous pouvez m'aider aussi à les lire. Le premier texte, c'est tous les textes qui se situent dans le livre des Juges. Le premier texte donc, que je vais lire, c'est Juges chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Le deuxième, c'est encore Juges chapitre 6, du verset 11 au verset 17, et quelqu'un peut le lire s'il veut bien. Et puis, Juges chapitre 7, verset 1 à verset 9. Je lis la première portion de l'Écriture. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ça va, tout le monde l'a trouvé? C'est bon? Ok. Donc, je lis la parole de Dieu. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Ils ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire la deuxième portion aujourd'hui? Toujours Juges chapitre 6, du verset 11 au verset 17. Enfin, verset 16, oui.
Le Seigneur, avec quoi
Merci. Amen. Alors, je vais lire la dernière partie, ou sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se propose de lire ça avec nous? C'est Juge, bon, je vais lire Juge 7, à partir du verset 1. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp des Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galate. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, il en restait 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-le descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lapent le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par ces 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun ce soit. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp des Madian était au-dessus de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi et descends, au camp, car j'ai livré entre tes mains. Je l'ai livré entre tes mains. Amen. Alléluia. Alors, cette histoire donc, que nous venons de lire se trouve dans le livre des Juges et la période donc, du livre des Juges se situe entre deux choses importantes. La première, c'est la mort de Josué, d'accord? Et la deuxième, donc, c'est l'instauration de la royauté en Israël. Donc, ça se passe entre ces deux parties-là. Et le terme juge désigne des personnes, donc des hommes et des femmes, qui ont été choisis par Dieu et qui ont été remplis de l'Esprit de Dieu pour. Souvent, ça bouge, je suis un peu lourd aussi. Qui ont été choisis par Dieu. Pour gouverner Israël ou pour délivrer Israël d'une oppression. Et en général, le peuple qui oppressait Israël, c'était des voisins, c'est des peuples qui, au départ, selon l'ordre du Seigneur que Dieu avait donné donc à son peuple, c'est des personnes que normalement on devait exterminer. Dieu ne voulait pas que Israël, à qui il avait donné Canaan, vivre avec ces personnes-là, à cause surtout donc des pratiques et des dieux que ces différents peuples-là adoraient. Mais les enfants d'Israël n'ont pas obéi à Dieu, ils ont cohabité avec ces peuples-là, et au fur et à mesure donc, des générations qui passaient, il y a eu des alliances donc, avec ces peuples-là. Les enfants d'Israël ont donné leurs enfants en mariage aux filles de ces peuples-là, et vice-versa. Et donc, en cette période-là, comme il a dit, par un verset qui résume un peu, les enfants d'Israël faisaient ce qu'ils voulaient. Et cette période est caractérisée par ce qu'on pourrait appeler une triptyque, c'est-à-dire un cycle se répétait. Il arrive un moment où les enfants d'Israël donc, se détournent de Dieu et adorent Baal ou autre dieu païen. L'Éternel dans sa colère, donc première partie, deuxième cycle, l'Éternel dans sa colère se fâche, donc, et livre le peuple à l'ennemi. Sous l'oppression, les enfants d'Israël crient à l'Éternel, et l'Éternel intervient donc pour faire venir un héros, donc comme ça les appelait aussi, pour délivrer le peuple. Et cette histoire que nous venons de lire, c'est pour ça qu'on a lu les trois textes, s'inscrit aussi donc dans cette logique-là. Et le texte qui nous intéresse plus, c'est à partir du chapitre 7. Madian, donc, oppressait Israël, et Dieu choisit un homme à la personne de Gédéon, pour apporter la délivrance à Israël. Et quand Dieu choisit Gédéon, l'ange de l'Éternel qui vient parler à Gédéon est confronté à une situation particulière. D'abord, il dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon se regarde, il dit, mais si c'est à sa place, je lui dis, mais c'est de moi tu parles ou bien tu parles de quelqu'un d'autre. L'ange de dit, c'est vraiment de toi qu'on parle, vaillant héros. Et souvent, je fais une petite parenthèse. Parfois, on se regarde avec nos propres yeux ou avec les yeux des personnes de notre environnement, de notre voisinage. Et parfois, quand ces regards-là ne sont pas bons, on arrive à se sous-estimer, on arrive à se mésestimer, on arrive à se voir tellement insignifiant qu'on ne se rend pas compte que ce qui importe, c'est le regard lequel Dieu nous regarde. C'est ça qui est important. Et donc Dieu choisit Gédéon, et l'ange de l'Éternel arrive à convaincre Gédéon afin que celui-ci se décide donc à conduire l'armée d'Israël. Et dans le texte que nous avons lu au chapitre 7, on se rend compte que Gédéon arrive, parce que vous pouvez lire le texte à la maison après, avec une poignée d'hommes, donc 300, à battre la grande armée des Madians, qui était je n'ai pas retenu le nombre exact, mais ils étaient plus de 130 pratiquement. Avec 300 hommes, il arrive à les battre. Et je crois que en cette année 2018, Dieu va nous donner des victoires aussi importantes au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Dieu va nous donner des victoires. Il y a des victoires qui arrivent pour nous. Mais ce qui importe, c'est quoi? C'est, quand on regarde ce texte-là, la sélection a été faite. Ils étaient d'abord 22 000 hommes au départ. L'armée. Même normalement, dans les, je veux dire, si on regarde ceux qui ont fait, je veux dire, les études militaires ou tout, les études de stratégie, on sait que même 22 000 hommes ne peuvent pas battre 100 000 hommes. Déjà, c'était déjà, dès le départ, il n'y avait rien à faire. Mais malgré ça, le Seigneur a voulu que le nombre soit réduit. Il a dit, parce que sinon, après, les gens diront que, enfin, le peuple dira que c'est par leur propre force qu'ils ont pu vaincre ces personnes-là. Mais ce que je voulais qu'on puisse voir, c'est Dieu qui fait une sélection, vous voyez là, et sur la base de leur attitude. La première attitude, il regarde, il dit, bon, je dis, donc fais-moi une sélection. Regarde le peuple qui arrive. Par rapport à leur attitude, il y en a qui avaient déjà peur. Avant d'aller à la guerre, ils avaient déjà peur. Et c'est le premier élément sur lequel Gédéon se fonde donc pour faire le premier tri. Mais il ne s'arrête pas là. Ils étaient 22 000, il y a 12 000 qui sont partis, il ne restait plus que 10 000. Dieu demande encore à Gédéon, parmi les 10 000 là, vous allez arriver à une source d'eau, tu vas faire un tri. Ceux qui viendront boire en se mettant à genoux, de ceux qui boiront l'eau simplement en s'abaissant et en portant l'eau avec la main à la bouche pour boire. On peut spéculer sur les positions. On peut rester dessus pendant longtemps. Bon, on va dire que par rapport peut-être aux pratiques de combat, aux techniques de combat, quelqu'un qui est à genoux, il est déjà pratiquement défait. Parce qu'on s'est dit, si pendant qu'ils sont en train de voir que l'ennemi arrive, celui qui est à genoux aura plus de difficulté peut-être à se retourner, à faire face à l'adversaire par rapport à celui qui est simplement fléchi. Vous voyez, comme ça, je pense que c'est plus facile à se retourner et de combattre. Que quand tu es à genoux, c'est un peu plus difficile. On va peut-être dire cela. Dans tous les cas, la sélection a été faite sur l'attitude. Et c'est sur ça que je voudrais que aujourd'hui on puisse être interpellé. Avec quelle attitude nous rentrons dans cette année 2018? Comment rentrons-nous dans cette année 2018? C'est à cela que je voudrais arriver. Est-ce que on rentre dans cette année 2018 comme on le fait d'habitude? Avec de lourds fardeaux.
L'année 2017, l'année qui n'était pas bon, je viens encore, je rentre avec ses femmes.
J'ai eu tellement de problèmes en 2017.
Et je rentre en 2018 de la même façon, parce que je pense que de toute façon, la vie est comme ça.
Malgré le fait que je sois chrétien. Bon, écoutez, 2018, qu'est-ce qu'on peut voir de nouveau encore? De toute façon, le temps des miracles est passé.
Il y a toutes ces questions-là qu'on se pose.
Et la chance que j'ai eue d'être devant vous, c'est d'essayer de vous donner quelques petits conseils pour qu'on puisse avoir la bonne attitude pour entrer en 2018.
Et j'ai bien aimé le témoignage de notre sœur.
Parfois, quelqu'un a dit,
on ne sait pas comment Dieu fait. Ce qui est sûr, Dieu va faire. Mais comment il fait, ça lui revient. Elle avait besoin d'un matelas. Ce n'est pas dans les normes ici qu'on puisse demander de l'argent peut-être pour payer un matelas. Mais Dieu l'a étonné, Dieu l'a épaté. Dieu fait toujours au-delà de ce que nous pouvons penser. C'est nous qui, parfois, dans notre façon de voir, le calons, lui donnons des normes dans lesquelles il doit intervenir. Mais Dieu est au-delà de notre entendement, il est au-delà de notre façon de voir. Dieu n'est pas notre petit ami, Dieu n'est pas notre camarade. Dieu est Dieu. Et j'ai eu la chance, j'ai eu la grâce de pouvoir aller en Israël pour faire une semaine. J'ai été invité par un ami qui est pasteur. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Je suis allé en décembre, là, ça m'a aidé. J'ai vu comment... C'est quoi l'adoration? Une autre dimension de l'adoration de Dieu. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup l'adoration déjà. Mais j'ai vu comment ce qu'on appelle un peu vivre pour Dieu, j'ai vu un tout petit peu. C'est vrai, beaucoup diront, non, c'est la tradition. C'est vrai, mais c'est, Israël est une porte physique de tout ce qui est spirituel que nous avons appris. Ça change la façon de voir les choses. En plus, c'était tout frais payé, donc...
que Dieu vous bénisse. Alors, donc, on voit très bien que l'attitude est importante. Et il est bon de travailler sur notre attitude. Et cette attitude doit être forgée par certains éléments. Le premier élément sur lequel notre attitude doit être forgée, doit être assise, c'est la reconnaissance à l'Éternel. Être reconnaissant à Dieu. Vous savez, dans le texte que nous avons lu, j'ai dû en faire une sélection poussée par l'Esprit de Dieu. Mais si je vous dis une chose, peut-être ça va vous choquer. Il y a une similitude entre ce qui s'est passé là et notre vie aujourd'hui. On a été sélectionnés pour entrer en 2018. Oui, on a été sélectionnés. Il y en a qui sont morts, tout simplement. Peut-être que ça vous choque que je le dise. Il y en a qui n'ont pas pu survivre. Il y en a qui ont des points tellement difficiles, des choses auxquelles ils n'espéraient même pas. Est-ce que vous êtes plus méritant qu'eux? Est-ce qu'on est plus méritant que ceux qui, malheureusement, sont décédés ou ont eu des, je sais pas, plus de problèmes qu'ils n'avaient imaginé? C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Si on est là, ce n'est pas pure grâce. Parce qu'on n'a aucun mérite. Tout est grâce. Parce que même, il y a des fois où des gens ont eu les plus grands médecins devant des situations les plus délicates ou bien de façon les plus simples, mais qui n'ont pas pu être guéris. Ça arrive aussi.
C'est la grâce de Dieu. Donc nous devons être reconnaissants à l'Éternel. Nous devons lui dire merci du fond du cœur. C'est une attitude, c'est le premier élément de l'attitude qui va nous permettre de rentrer dans cette année 2018-là, de faire cette, qu'on appelle, pour appeler cette traversée-là. C'est très important. Il faut qu'on soit reconnaissant à Dieu. Et on peut avec Éphésiens 5, verset 20, dans le psaume 16, verset 12, il dit... Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Vous savez, il y a
En tant qu'enfant de Dieu, l'évidence n'existe pas. Parfois, on pense que tout est évident, mais ça n'existe pas. Que Dieu nous aide à être reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour nous. Et on l'a bien dit tout à l'heure, quand on chantait, c'est important de dire merci à Dieu. Parfois, le mot merci, c'est... Dieu a besoin de notre merci. Parce que le merci révèle qu'on apprécie ou pas ce qu'on a reçu. Même si on pense que, il dit, et quand le Seigneur envoie ses disciples même pour aller évangéliser, faire l'œuvre, il dit, celui qui vous reçoit même avec un verre d'eau. Donc pour Dieu, il n'y a rien qui est insignifiant. Tout ce qu'on donne, même si petit qu'il soit, est important. Deuxième chose, pour aller un peu vite, c'est avec qui allons-nous rentrer en 2018? Vous savez, Dieu a dit à l'ange de l'Éternel disait à Gédéon, si le peuple va avec les 22 000 hommes qui gagnent le combat, ils vont penser que c'est eux. Dieu ici montre aussi que le plus important, c'est que le Seigneur soit avec nous quand on fait tout ce qu'on fait. La dépendance vis-à-vis de Dieu est très importante. Un autre pilier encore qui va être le socle de notre attitude, c'est que nous soyons dépendants de Dieu. Que nous reconnaissions que nous soyons dépendants de Dieu. Ça nous conduit à avoir de l'humilité dans notre vie de tous les jours. Parce que ce que nous avons ne vient pas de nous. Même si on n'exclut pas le fait que la responsabilité humaine est engagée dans tout ce qu'on fait. Mais on dépend de Dieu. Notre vie dépend de Dieu. Notre vie sans Dieu n'est rien. Même si il y en a qui pensent que parfois, quand on les voit à l'extérieur, ils sont... Vous savez, parfois, le monde d'aujourd'hui est un monde où le mensonge a pris tellement le devant, l'illusion a pris tellement le devant, que beaucoup disent, mieux vaut faire envie que pitié. On voit beaucoup de personnes vivre d'une certaine façon. Mais c'est terrible après quand tu vois les soirs, les gens chez eux en train de pleurer devant je ne sais quoi. Que Dieu nous aide à être dépendants de lui. Troisième chose. C'est une chose qui est très très importante. C'est bannir ou s'éloigner de ce qu'on appelle l'esprit de routine. Oui, ça a été la même chose, ça sera encore la même chose. Faire les mêmes choses. Non, bien aimé. Vous savez, dans le livre de Samuel, 1 Samuel 1, verset 17, on peut voir, il y a une dame, elle s'appelle Anne. Elle n'avait pas d'enfant, et sa coépouse avait plusieurs enfants, et chaque fois, la femme la charriait. Elle se moquait d'elle. Chaque fois, la femme l'humiliait, malgré l'amour de son mari. Et chaque fois aussi, quand il fallait, parce qu'en ce moment-là, on n'allait pas comme ça au temple, quand elle allait au temple, chaque fois, elle priait le Seigneur. Pour que Dieu change sa situation. Elle y allait plusieurs fois. Mais un jour, elle allait et elle n'a pas fait la même chose. Ce jour-là, sa prière a changé. Au point où l'homme de Dieu qui était là, Élie, qui, on va dire, quand on regarde donc ce qui s'est passé, avait été déjà pratiquement rejeté par Dieu, l'a vu et il l'a méprisé. Vous savez, la Bible dit qu'il répandait son cœur devant Dieu. La façon dont il a prié. C'est qui m'appelle quelque chose. Ça dit, il y a des jours, il y a des façons de prier. Quand tu pries de cette façon, toi-même, tu sens que ce n'est pas la même chose. Et ce jour-là, elle est exaucée. Parce qu'elle a changé sa façon de faire. On doit refuser la routine. Il y a des choses encore nouvelles que Dieu peut faire. Il y a des choses nouvelles que nous pouvons découvrir encore dans notre vie. Il y a des objectifs nouveaux que nous pouvons nous fixer et que Dieu peut nous aider à atteindre. Même je dis encore, le Seigneur est venu le voir, pour lui, qu'est-ce qu'il pouvait encore? Il ne s'attendait même plus à quelque chose. Or, le salut arrivait. Notre Dieu est un Dieu de nouveau départ. C'est vrai, pendant longtemps, ils ont été dans la défaite. Mais Dieu a choisi qu'à un moment donné,
Le temps est arrivé que les choses changent. Et il peut le faire pour nous en 2018. Il peut le faire pour nous en 2018. Chacun a des attentes. Peut-être il y a des attentes même qu'on a fourrées au tiroir parce qu'on s'est dit, c'est même plus la peine. C'est le moment de les faire ressortir et de les prendre et de dire, Seigneur, je crois encore à toi. Je crois que tu es capable de faire encore quelque chose au-delà de ce que je pense. C'est possible. Mais cela dépend de notre attitude. Un autre élément encore que j'ai noté, c'est, on peut le voir dans le livre de Jean 5, versets 5 à 9, je ne peux pas lire parce qu'à cause du temps, c'est l'histoire du paralytique qui était à la piscine de Bethesda. La Bible dit qu'il était malade depuis 38 ans. Ça arrive quand on est malade et que les choses ne changent pas. Mais on continue de prier. Mais il y a quelque chose qui est spécial dans ce texte-là, c'est que le Seigneur Jésus vient à la piscine de Bethesda. Il y a plusieurs malades. Il vient vers le paralytique qui a 38 ans et lui pose une question. Veux-tu être guéri? Vous avez répondu quoi à sa place? Oui? Qu'est-ce que lui a répondu? Vous voulez qu'on voit? Je n'ai personne. Est-ce que c'est la question qu'on lui a posée? Veux-tu être guéri? Non, tu sais, ici, bon, moi je suis seul sur mon lit, hein, je suis couché. Les autres, là, on les plonge dans la piscine. Moi, il n'y a personne qui m'aide. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Tu as celui qui est en face de toi, c'est la résurrection et la vie. Il est la vie éternelle. L'étoile brillante du matin. Celui qui tient la clé de David, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Celui qui ressuscite les morts, il est devant toi. Il te parle. Et toi, tu te plains. C'est une situation, parfois ça arrive. C'est-à-dire, on se rend pas compte, mais on commence à se complaire dans une situation qui est délicate, mais on commence à faire même son lit, comme le paralytique le faisait. Finalement, il était là pour quoi? Pour regarder certainement les gens, il ne cherchait même pas la guérison à la limite. Mais c'est peut-être la douleur, le fait d'attendre longtemps, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on ne pense même plus à la... Or, il est encore possible. Et le Seigneur vient encore ce matin vers vous pour dire qu'il veut rentrer avec vous en 2018. Même si l'année 2017 n'a pas été comme vous avez voulu. Mais cette année, c'est possible que les choses changent. Mais est-ce que vous allez faire comme le paralytique en disant « Non, c'est-à-dire que... » Oui, ou tout simplement, comme il dit, « Je me tiens à la porte, voire que je frappe. » Ouvrez-lui la porte, laissez-le agir. Il est fidèle. Il est là encore ce matin. D'abord, même avec quelle attitude tu es venu ce matin? Et toi, au moins, tu as eu le courage de venir. Alléluia! Donc, il y a des situations que parfois, même si on ne le montre pas devant tout le monde, mais dans le secret qu'on prie, comme le matelas, si notre Seigneur ne l'avait pas dit, on n'allait pas le savoir. Mais le matelas, elle ne voulait plus dormir sur ce matelas-là. Et elle a prié doucement. Mais si tu n'avais jamais, si tu avais voulu continuer à dormir sur le matelas, est-ce que le matelas aurait été changé? Mais c'est ça. Avec le matelas, tu es fatigué à un moment donné. Peut-être ce n'est pas du luxe, mais bon, le matelas est fatigué, il faut le changer. Il faut le changer. Elle-même regarde son matelas et dit, franchement, je suis fatigué de toi, matelas. Il faut que tu dégages du machin. Et, excuse-moi, tu ne savais même pas que c'est Jésus qui était en face de toi au travers de ces dames-là. Mais c'est comme ça. Le Seigneur, il a donné la terre aux hommes. Il ne peut que passer par les hommes pour agir. C'est ça. On ne sait pas quand il vient, à quel moment, mais il est toujours là. Alléluia. Ah. Un autre élément, c'est le cinquième. J'ai encore 2 minutes, c'est ça? Bon, c'est fini. Bon, je vais terminer. Voilà. Une autre, pour renforcer notre attitude, c'est persévérer dans la prière pour voir les choses changer. C'est un peu lié. C'est comme la femme qui a eu la peur des sangs depuis 12 ans. D'accord? Vous pouvez le voir dans le livre Marc 5, à partir de 25 à 34. Cette dame-là, elle a quelque chose qui était bien, qui peut nous aider, c'est quoi? Cette année-là. C'est que la Bible dit que elle avait longtemps souffert. Elle est passée en les mains de plusieurs médecins. Elle a dépensé tout son argent. Elle avait tout perdu. Mais une chose qu'elle n'avait pas perdu, l'envie de guérir. Ça, c'est important. Elle a tout perdu, hein? Et son mari l'avait laissé. Vous vous rappelez cette histoire-là, non? Qui se rappelle? Bon? Une femme qui était malade pendant 12 ans, peu de temps, elle avait perdu tout son argent. Mais son mari a dû la laisser, puis il est parti. Elle a vu tous les médecins. Mais en elle, il y avait encore quelque chose, une soif, la guérison. Je ne sais pas quelle est ta soif. Attendez. Ou quelque chose que tu voulais voir changer, que tu as abandonné. Mais réveille cette soif-là de voir les choses changer. Alléluia. Et Dieu nous aidera. Alors, je vais m'arrêter là. Hein? C'est bon, donc, pour entrer dans cette année-là, de se confier au Seigneur. Même si on ne croit pas que le matelas puisse être changé, il faut se confier au Seigneur. Même si on ne croit pas que les choses puissent changer, il faut quand même faire la prière. Oui, Seigneur, je vais rentrer avec toi. Dévance-moi. Que tes anges me dévancent. Précède-moi dans cette année 2018 et dispose toutes choses. Donc il faut se confier au Seigneur. Il faut améliorer ses résolutions, pardon, parce que la Bible dit dans Job 22, à partir du verset 28, à tes résolutions dépendra ton succès. Donc il y a des bonnes résolutions à prendre. C'est vrai qu'on a déjà fait des bilans plus ou moins, mais pour conclure, je voudrais qu'on puisse comprendre que Dieu nous aime et il contrôle tout. Et il est bon que pour cette nouvelle année, nous puissions lui mettre en lui notre confiance. C'est important d'avoir confiance en quelqu'un. Donc, recommandons-lui notre vie, notre travail, tout ce que nous faisons, nos familles, nos biens. Et comme il a fait pour Gédéon, il est encore capable de faire pour nous. Comme il a fait pour Gédéon et Israël contre les Madianites, il est encore capable d'agir. Voici donc ces quelques petits conseils que je voulais vous donner pour forger notre attitude. Il faut qu'on ait une attitude qui soit. Donc, ce n'est pas, je veux dire, comme on dit parfois, la pensée positive, non. Je voulais terminer par une citation de Napoléon Bonaparte qui dit que mieux vaut mettre de la fierté dans son attitude que de se reconnaître d'avance vaincu. Mieux vaut mettre de la fierté dans son attitude que de se reconnaître d'avance vaincu. Donc, rentrons dans cette année avec des chants d'allégresse, de la joie et mettons notre confiance au Seigneur. Bonne et sainte et bénie année 2018 à tous. Je finis. Merci.
On va prier.
Donc, je vais demander à chacun de prier, même s'il a déjà fait, de le faire encore, pour confier son année au Seigneur, pour dire à notre Seigneur Jésus que nous voulons le voir autrement dans cette année, ce que nous n'avons pas encore vu. Nous voulons qu'il nous étonne encore. Nous confions tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te recommandons notre sort et nous croyons que tu agiras, parce que tu es le Dieu qui est bon, Dieu qui est fidèle. Bénissons pour tout. Reçois la gloire, reçois l'élévation, règne la puissance. Et entends les prières de tes enfants et exauce-les, parce que tu es un Dieu qui est bon. Tu l'as montré au travers, Seigneur, le peuple d'Israël qui était confronté aux Madianites. Et dans tout le livre des Juges, tu montres combien tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de miséricorde, qui ne t'arrête pas sur les faits et les méfaits de tes enfants, mais qui, chaque fois qu'ils reviennent à toi, trouve de ta part de la bonté, le pardon et de la restauration. Qu'il en soit de même pour nous et que la gloire te revienne toi, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.